À Rencontre spirituelle aujourd'hui, je vous ai promis de parler de l'Eucharistie. C'est qu'il n'y a pas vraiment de saint très intéressant aujourd'hui, et puis l'an dernier, je vous avais déjà fait une émission sur un saint. Alors, l'Eucharistie étant au cœur, vraiment au cœur du christianisme, il faudrait bien savoir, si on ne le sait pas déjà, ce qui se cache derrière ce mot « Eucharistie », ou plus simplement, si vous voulez, la messe, ou si vous voulez, le Saint-Sacrement. Il y a tellement de conceptions différentes. D'ailleurs, ça a évolué au cours de l'histoire de l'Église. À l'intérieur de la vraie foi catholique, il y a eu une évolution. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Soyez sans crainte, cette évolution ne nous mène pas vers une approche qui nous empêcherait de croire ce que croyaient les premiers chrétiens, les apôtres. Au contraire, quand on assiste aujourd'hui à une messe, le prêtre s'écrie à un moment donné, alors qu'il vient d'accomplir dans ses mains ce changement très mystérieux du pain et du vin au corps et au sang du Christ glorieux. Il s'écrit, « Il est grand, le mystère de la foi. » Bon, c'est sûr que parfois, des prêtres qui n'ont pas le don de la parole murmurent plus ou moins cette phrase, qui semble un peu arriver comme ça, sans trop de splendeur. Mais c'est en fait une acclamation. Il y a un point d'exclamation à la fin de cette phrase. Il est grand, le mystère de la foi. L'Église a toujours cru au réalisme du changement qui s'effectue sur l'autel au moment de la consécration. Elle y a toujours cru. On peut recouler non seulement dans les textes du Nouveau Testament, mais on peut aussi se référer à des théologiens très importants. L'un dont on parle un peu moins parce que son nom est un peu entaché, c'est Théodore de Maupassus. Il est mort en 428. Il était né à Antioche. C'était un ami de Saint Jean Chrysostome, dont je vais vous parler d'ailleurs le 13 septembre, vendredi, dans une semaine. Il est devenu évêque de Maupassus en Cilicie, Théodore, et il déclare à un moment donné, le Seigneur n'a pas dit, ceci est le symbole de mon corps, ceci est le symbole de mon sang, comme le prétendent les témoins de Jéhovah, et bien des chrétiens séparés des grandes églises catholiques et orthodoxes, quoique de beaucoup de protestants reviennent à une conception, pour ainsi dire, identique à celle de ces deux grandes églises, qui sont les fondements, à mon sens, de ce grand ensemble des grandes églises, des églises chrétiennes. Alors Théodore de Maupassus dit bien que le Seigneur n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps, ceci est le symbole de mon sang », mais il a bien dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », parce qu'il voulait qu'on n'envisage pas ces éléments du pain et du vin après qu'ils ont reçu la bénédiction et l'invocation de l'Esprit-Saint, oui, de l'Esprit-Saint, d'après ce qu'on en voit, mais que nous les recevions vraiment, comme son corps et son sang. C'est compliqué, vous direz. Les gens qui ont de la difficulté à croire à ça, je comprends. Parce que c'est un mystère qui fait bien des difficultés. Un certain nombre même de catholiques. Moi, j'en sais quelque chose, je vais vous faire une confidence. Ça me gêne un peu. Mais pendant plusieurs années, j'avais à peu près 27 ans, 28 ans. Pendant plusieurs années, je me suis détaché de la foi traditionnelle. et je n'arrivais plus à croire à la présence réelle. Donc je me disais catholique quand même, et je croyais que j'avais raison. Mon Dieu, que je regrette. Parce que je croyais de tout mon cœur, comme bien d'autres, que le Christ est ressuscité, présent au milieu de son Église, comme il l'a promis à ses disciples le jour de l'Ascension, n'est-ce pas, quand il dit, on voit ça dans Matthieu 28, chapitre 28, « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et cela me suffisait, comme cela suffit à certains catholiques qui ont perdu cette foi. Ces catholiques-là veulent même bien admettre que le Christ se serve de réalité toute simple comme le pain et le vin pour changer le cœur des communiants. C'est ce que je croyais. Comme il se sert, disons, de l'eau du baptistère là, pour communiquer sa vie aux baptisés. Hein? Mais ce genre de catholiques, ou les chrétiens qui sont comme eux, se demandent à quoi peut servir le changement opéré par le Christ dans des éléments tout à fait matériels. Hein? On se dit, ben, le Christ pourrait très bien convertir nos cœurs sans changer tout d'abord le pain et le vin. Hein? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il opère déjà dans le baptême? Il infuse sa vie dans l'âme des baptisés, sans pour cela consacrer l'eau du baptistère. Hein? On ne fait pas la génuflexion devant la cuve baptismale. Je vous sers ces idées-là parce que ce sont des idées qui courent. Pas pour que vous commenciez à croire ça. Non. C'est juste pour renverser ces idées-là que j'ai eues moi-même. Or, dans la doctrine traditionnelle d'Église catholique, le pain et le vin ne sont pas des simples éléments par lesquels le Christ vivant nous communique sa vie au moment de la communion. Non, c'est pas simplement ça. Il y a des gens qui pensent ça, c'est beau, mais c'est pas simplement ça. Dans le très saint sacrement, le Christ consacre un peu de pain et de vin avant de transformer nos cœurs, puis afin de le faire. Et un changement qui est aussi mystérieux, puis aussi peu perceptible, il se passe rien, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de changement de couleur, ça grossit pas, ça... il n'y a rien pour nos yeux. Le changement s'opère dans notre cœur. Mais à la différence de ça, ça ne dépend pas des dispositions intérieures du prêtre qui célèbre la messe. Le changement s'accomplit, se fait. Il y a eu bien des objections à notre foi mystérieuse et belle. C'est le grand philosophe allemand Hegel qui a publié « Phénoménologie de l'esprit » puis « Science de la logique », un très grand philosophe. Il voyait, lui, dans l'adoration de l'hostie par les catholiques, il voyait ça comme l'expression, comme le résumé de notre infidélité à l'Évangile. Cette adoration est, dit-il, un retour à la mentalité mythologique dans laquelle les hommes laissaient autrefois libre cours à leurs besoins de, vous savez, de localiser la présence de Dieu hein, dans un objet, une statue, une idole, en sacralisant là, certains objets du monde extérieur. Puis le pouvoir que s'arrogent les prêtres de consacrer l'hostie, affirme Hegel encore, c'est un moyen qu'il se donne de s'approprier tout le monde du sacré, là, puis de mieux dominer ainsi les laïcs. C'est une accusation grave, elle est très répandue. Je la sers pour montrer que je ne suis pas, et comme bien des catholiques, ignorant de ces choses-là. Bon. Mais soyez sans crainte. Il y a eu des contestations, d'ailleurs, au sujet de la présence réelle depuis très longtemps. Les pères de l'Église ont été obligés de la réaffirmer, etc. Et on voit au milieu du 11e siècle, c'est un des grands événements dans l'histoire de l'Église, il y avait un prêtre à Tours. Tours, ça nous touche de près parce que c'est de Tours que viennent beaucoup des fondateurs de l'Église du Québec, hein, du Canada. Ce prêtre s'appelait Béranger. Il voyait dans la messe, lui, un simple mémorial, une simple espèce de souvenir de la crucifixion du Seigneur. En somme, une invitation à crucifier nous crucifier nous-mêmes, crucifier nos désirs, en même temps que de crucifier nos convoitises. Sa contestation lui a valu une réponse de l'abbé de l'abbaye du Bec en Normandie, le fameux Lanfranc, le futur archevêque de Canterbury en Angleterre, hein? Avant la séparation de l'Église anglicane de notre Église, évidemment. Lanfranc disait « Lorsque la discussion porte sur le mystère de la foi, j'aimerais mieux recourir aux autorités sacrées que de m'aventurer dans la dialectique. » Bon, méthode simple. Mais c'est peu de temps après que l'Église a demandé d'ailleurs aux prêtres d'élever l'hostie. C'est de là que ça date, hein, à cause de ce Béranger, cet abbé Béranger de Tours qui avait de la difficulté à croire. C'est peu de temps après que l'Église a demandé donc aux prêtres d'élever l'hostie après la consécration. Après la consécration, pas avant. Il y en a des prêtres qui l'élèvent, elle n'est pas consacrée, elle est déjà en haut, à la hauteur de leur front, puis prononcent les paroles consécratoires. C'est-à-dire qu'ils disent les paroles de Jésus, « Prenez et mangez. » Ceci est mon corps livré pour vous. Ça n'a pas de sens. C'est après la consécration, pour la présenter à l'adoration des fidèles, qu'il faut le faire. Je demanderai à tous les prêtres de bien faire attention, de garder cette hostie non consacrée dans leurs mains, mais qu'ils appuient leurs mains sur l'autel, afin que nous, les laïcs, dont la foi est si chancelante, attaqués de toutes parts, qui ne sommes pas instruits en général des questions de la foi, nous sommes pris dans des tas de problèmes, nous, les laïcs. Nous nous levons le matin et nous courons pour aller travailler, pour faire vivre nos enfants, notre femme. Et les mères courent aussi pour aller travailler souvent. Il faut porter les enfants dans une garderie ou bien à l'école, et ensuite les repas, les achats, les devoirs, les problèmes de l'éducation des enfants et tout ça. Et le dimanche, ils arrivent à l'église, ils n'ont pas eu le temps de lire des ouvrages de théologie, d'approfondir leur foi. Il ne faut donc pas que les prêtres nous montre l'hostie non consacrée. Moi, c'est mon point de vue, peut-être que je me trompe. Mais n'imposons pas aux laïcs trop de choses difficiles. Ne leur montrons donc que l'hostie consacrée. Élevons l'hostie après la consécration. Moi, je ne suis pas prêtre, mais si j'étais prêtre, c'est ce que, me semble, je ferais. D'ailleurs, beaucoup de nos frères réformés sont en train, les protestants, de redécouvrir aujourd'hui le réalisme de la présence eucharistique. J'ai des amis protestants qui y croient profondément, particulièrement en France. Et dans un accord signé en 1972 par un certain nombre de théologiens catholiques et protestants, qui discutaient dans ce temps-là à l'abbaye des Dombes, on les appelait le groupe des Dombes, c'est une trappe, ça, qui était construite en France dans des marais. Je pense que 70 trappistes sont morts de toutes sortes de maladies à construire cette trappe dans des marais. C'est terrible, hein? C'était au 19e siècle. Alors on peut lire dans ce texte-là, nous confessons, c'est les protestants comme les catholiques qui disent, nous confessons, c'est-à-dire nous admettons, nous proclamons la présence réelle, vivante et agissante du Christ dans ce sacrement. Ils écrivent aussi, l'action eucharistique est don de la personne du Christ. En effet, le Seigneur a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Ils disent ensemble, nous confessons donc unanimement la présence réelle, vivante et agissante du Christ dans ce sacrement. Évidemment que ça requiert la foi, c'est évident, hein? Mais cependant, disent-ils, la présence du Christ à son Église, dans l'Eucharistie, ne dépend pas de la foi de chacun, car c'est le Christ qui se lie lui-même, par ses paroles et dans l'Esprit-Saint, à l'événement sacramentel, qui est signe. Oui, c'est le signe de sa présence donnée. Il termine en disant, ce qui est donné comme corps et sang du Christ reste donné comme corps et sang du Christ et demande à être traité comme tel. Ne nous imaginons pas qu'après la messe, ce n'est plus le corps et le sang du Christ et qu'on peut en disposer en le jetant. Non, non. Le changement est fait et c'est pour toujours. La foi en l'Eucharistie implique la foi que c'est là le corps et le sang du Christ pour nous et pour toujours. Ici, vous montrer ce qui peut permettre à un chrétien de vivre avec une certitude vraiment joyeuse, ce dogme étrange de la présence réelle qui est comme un résumé de tout le mystère chrétien qui nous habite et dans lequel nous habitons. C'est au cœur de notre foi. Moi, dès que j'ai retrouvé cette foi profonde, ma vie a changé. Je ne peux plus passer un jour sans courir vers une église quelque part. D'ailleurs, l'Église est loin de nous encourager à croire en ce mystère sans chercher à le comprendre. L'Église ne demande pas mieux, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle cherche, l'Église? Elle cherche notre joie profonde, la joie profonde de notre cœur et de notre amour. Comme devant les autres mystères, l'attitude du fidèle devant l'Eucharistie comporte deux étapes. D'abord, le catholique commence par accepter le dogme de la présence réelle, comme une vérité révélée dans l'Église, ou plus exactement, comme une vérité que l'Église a toujours perçue dans l'Écriture. Alors, je cite seulement quelques témoins de cette foi très, très ancienne de l'Église. Vous suivez, je vous avais fait une émission sur Ignace d'Antioche. Mon Dieu, il est mort en l'an 107, il a connu Saint Jean. Il parlait des docètes, c'est-à-dire, là, ces premiers chrétiens. Je vous parle de ça parce que c'est intéressant de voir que dès le début de l'Église, il y avait des gens qui se séparaient de la grande Église. Alors, il parlait des docètes, c'est-à-dire de ces premiers chrétiens qui niaient, eux autres, la réalité de l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ, en attribuant au Christ qu'une apparence humaine, juste une apparence. Alors, il remarque, Ignace d'Antioche, qu'ils s'abstiennent de l'Eucharistie, les docètes, et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, la chair qui a souffert pour nos péchés, la chair que le Père, dans sa bonté, a ressuscité. Car celui que nous recevons, c'est le Christ ressuscité. Il y a Irénée aussi qui est mort, évêque de Lyon, là, en France, qui est mort en 202. Il était aux prises avec les gnostiques. Il écrit, comment seront-ils assurés que le pain sur lequel on fait action de grâce est le corps de leur Seigneur et que le calice est son sang, s'ils n'admettent pas que Jésus-Christ est le Fils du Créateur du monde, c'est-à-dire son Verbe? Il faut donc avoir une foi profonde au Christ. Hein? C'est évident. Comment un homme qui ne serait pas Dieu, pourrait nous laisser un tel sacrement. Et Saint Cyprien, qui est mort en 258, lui, il traitait des renégats qui osent s'approcher de l'Eucharistie sans avoir fait pénitence. On voit ça souvent aujourd'hui lors des mariages et des funérailles. Saint Cyprien disait, ils font violence au corps et au sang du Seigneur, et ils l'offensent plus gravement en le recevant dans leurs mains et dans leurs bouches que quand ils l'ont renié. Alors le chrétien est ensuite, en deuxième lieu, invité à entrer le plus possible dans l'intelligence, dans la compréhension du mystère pour mieux y participer. C'est ce que l'Église désire. Elle veut que nous soyons instruits de tout ça. C'est ça qui est important. Après avoir rappelé tout le chemin qui a été suivi par saint Augustin et ses successeurs, là, mais je m'entends pas trop vous parler de ça, j'essaierai de vous exposer plus longuement la piste ou le chemin que je préfère prendre aujourd'hui, moi, à la suite des grands théologiens contemporains, sérieux, des vrais, des bons. Ça va être une façon de montrer, par cet exemple précis, que il y a diverses opinions théologiques à l'intérieur de la foi catholique, et c'est légitime, c'est accepté. C'est pas des opinions contraires, c'est des opinions qui vont plus loin, plus riches. Alors, je commence par la théologie de Saint-Augustin. Pour bien mettre en valeur la réalité du corps du Christ ressuscité, le Saint-Augustin, qui a vécu il y a 1500 ans, il présente le Christ, lui, glorifié, comme élevé dans le monde d'en haut. Alors, il écrit ceci, c'est bien important. Ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et c'est là qu'il éleva son corps, et c'est de là qu'il viendra juger les vivants et les morts, et c'est là que, pour lors, il siège à la droite du Père. Alors, au lieu de percevoir la résurrection du Christ comme un arrachement radical de son corps là, aux limitations de l'espace puis du temps, ce que nous faisons davantage aujourd'hui, là, au XXe siècle surtout, eh bien, saint Augustin, lui, l'envisage comme une espèce de transfert de ce corps glorifié dans le monde céleste. Il écrit, présent partout du fait qu'il est Dieu, le Christ est par contre au ciel, du fait qu'il est homme. Alors, cette représentation, ça a l'avantage d'insister sur un caractère bien réel de la résurrection de Jésus, son corps ressuscité, entré pour toujours dans la gloire du Père, le reste bel et bien corps humain, mais c'est là que ça accroche, hein, cette espèce de localisation dans le ciel du corps glorifié du Seigneur, mais ça facilite pas la représentation de sa présence réelle sur nos autels. Parce qu'on ne cessera pas de se poser la question. Comment le Christ, là, c'est la question que bien des gens se posent, hein, toujours à travers les siècles à cause de saint Augustin, comment le Christ, présent dans le ciel, peut-il se trouver aussi sur nos autels? Alors, ce sera la source de bien des difficultés. En particulier, l'enseignement de Béranger et de Tours, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au milieu du XIe siècle, hein, Béranger n'a pas accepté la condamnation dont il avait été l'objet au Concile de Versailles en 1059. Mais pourtant, ce pauvre prêtre, Béranger, 20 ans plus tard, a compris. 20 ans plus tard, en 1079, à l'ouverture d'un concile particulier qui se tenait à Rome. Alors, il va lire la profession de foi suivante, et c'est très beau, hein, très beau. Écoutez ça, ce que ce prêtre... Moi, ça me touche parce que j'ai fait comme lui, j'ai cessé d'y croire, puis j'y suis revenu. Pour ça que ça me touche. J'espère qu'il y en a qui ont peut-être cessé d'y croire et qui aujourd'hui vont commencer à croire vraiment à la présence réelle. Il l'a dit, moi, Béranger, je crois de cœur et je confesse de bouche que le pain et le vin qui sont sur l'autel sont, par le mystère de la prière sainte et par les paroles de notre Rédempteur, changer substantiellement en la chair véritable, propre et vivifiante, et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'après la consécration, ils sont le vrai corps du Christ, qui est né de la Vierge, qui, offert pour le salut du monde, a été suspendu à la croix, qui siège à la droite du Père, ainsi que le vrai sang du Christ qui a coulé de son côté. Il n'y a pas seulement figurativement et par la vertu du sacrement, mais dans sa nature propre et dans sa véritable substance. Comme on le voit, Alors, pour s'opposer à l'interprétation de ce prêtre Béranger, l'Église utilise, à partir du 11e siècle, ce mot ou la notion de substance. Elle veut signifier par là que le mystère de la transformation radicale du pain et du vin au corps et au sein du Christ, c'est une transformation substantielle. Donc, désormais, c'est ainsi qu'on s'exprime. Et dans la profession de foi imposée à Béranger en 1079, on voit seulement affirmer qu'il se passe quelque chose dans l'être profond du pain et du vin déposé sur l'autel. Comme l'Église y a toujours cru, après la consécration, ce n'est plus du pain ni du vin. C'est Jésus-Christ, vivant et glorieux. Mystère étrange, mais fondamental, des grandes églises catholiques et orthodoxes, et de plus en plus de plusieurs églises dites protestantes. Au quatrième concile du Latran, en 1215, c'est là qu'apparaît le mot transsubstantiation. On apprenait ça quand on était jeune, on avait de la misère à écrire ça, c'était long, transsubstantiation. D'entrer dans le langage officiel de l'Église, je vous dis simplement que ce terme, un petit inconvénient, comporte une espèce de connotation philosophique qui n'est pas du goût de tout le monde. Bon, c'est pas grave. Au 16e siècle, Martin Luther, le grand-père, si on peut dire, ou le père du protestantisme, n'avait plus entendu parler de transsubstantiation. Lui, il croit à la consubstantiation. Bon, c'est compliqué, hein? Mais c'est-à-dire, la consubstantiation, lui, veut dire la coexistence de la substance du pain avec la réalité du corps du Christ. Bon. Calvin, lui, Jean Calvin, père des calvinistes, un peu le père de notre Église unie, ici, au Canada, n'accepte ni la transsubstantiation des papistes, comme il dit, ni la consubstantiation de Luther. Lui, il veut renouer avec saint Augustin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis il bute sur les mêmes difficultés que l'abbé Béranger de Tours au 11e siècle. Bon, je vous fais grâce de toutes ces complications. Je voulais simplement vous dire ça en deux mots. Mais la réflexion théologique catholique contemporaine, là, relie beaucoup mieux le mystère de la présence eucharistique, aux propriétés très paradoxales et que possède désormais le corps glorieux du Christ ressuscité. On trouve ça dans les écrits du père Gustave Martelet, jésuite, et du père Durvel. Car il est bien important de se rappeler les affirmations très très fortes du Nouveau Testament au sujet de la maîtrise sur le cosmos que possède le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, c'est pas simplement un homme ressuscité. C'est Dieu qui a la maîtrise sur le cosmos. Et par sa résurrection, il est devenu Seigneur de l'univers, et c'est dans le Nouveau Testament. Il a reçu le pouvoir de dominer tout l'univers. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit: actuellement, il est vrai, nous ne voyons pas que tout lui soit soumis. Mais dans l'Eucharistie, le Christ anticipe de façon sacramentelle mais réelle la pleine maîtrise qu'il aura sur le cosmos lors de son retour glorieux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'empare devant nous du pain et du vin de nos Eucharisties pour en faire son corps et son sang et nous les donner en nourriture. Et cette pleine maîtrise qu'il a déjà sur la matière, sur le cosmos, eh bien, le Christ la manifeste, d'ailleurs, de temps en temps. Comment? Mais par des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses qu'il réalise dans le corps de certains malades qui implorent de lui un miracle. Et c'est la même maîtrise divine du Christ qui se manifeste de façon visible dans une guérison corporelle, et de façon invisible dans ce mystère de l'Eucharistie, ce mystère de l'autel. Pour comprendre un peu le mystère eucharistique, pour ne pas scandaliser par son réalisme, il faut regarder le Christ en croix, c'est en contemplant longuement le crucifix. Oui, ce crucifix que l'Église nous demande de mettre toujours à proximité de l'autel, c'est pas pour rien, hein?
Église saints se sont préparés à célébrer ce mystère adorable en contemplant le Christ. C'est comme ça que les saints deviennent des saints. Ils contemplent le Christ. La messe est le mémorial de la Passion. Non pas un mémorial inerte, comme peut l'être un crucifix de bois, là, ou de métal, mais c'est un mémorial vivant. Si un prêtre présidait la scène du Seigneur sans croire à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, il se contenterait quoi d'inviter ses frères à chanter un choral de la Passion composé par Jean-Sébastien Bach, tout en regardant le Christ en croix, mais parce qu'ils croient à la merveilleuse présence, là, eh bien le prêtre leur montre la Sainte Hostie tout en disant chacun d'eux, « Voici le corps du Christ livré pour toi. C'est avec ce corps qu'il t'a libéré du péché. C'est avec ce corps qu'il continue à te sauver. Alors prends et mange, et à force de le manger, et de te laisser envahir silencieusement par sa présence, tu finiras bien par goûter son amour. » Vous qui allez à la messe tous les jours depuis quelque temps et vous trouvez qu'il ne se passe rien, soyez patient. Silencieusement, vous serez envahis par sa présence et vous goûterez son amour, oui. D'ailleurs, imaginons un martyr qui, avant d'être exécuté par son bourreau, s'approcherait calmement de lui en lui disant, « Monsieur, permettez-moi d'abord de vous embrasser. » Alors, c'est ce qu'a fait Jésus le soir de la scène. Avant de se laisser condamner et tuer par les hommes, il a voulu les embrasser par ce baiser d'amour. Qu'est la communion? C'est un baiser d'amour. Hein? Un baiser capable de guérir en profondeur tous ceux qui osent y croire. Comprenez-vous ça? C'est un baiser du Christ, de Dieu lui-même, capable de guérir en profondeur tous ceux qui osent y croire. Tant qu'on n'a pas l'audace de considérer cette rencontre eucharistique comme ce qu'elle a été pour les pères de l'Église, c'est-à-dire, les autres, ils considéraient ça comme le baiser de l'époux, du cantique des cantiques à son épouse. Oui, oui. Il y a quelque chose, alors, qu'on ne comprend pas, et surtout qu'on ne goûte pas dans les mystères de la messe si on ne suit pas cette pensée. Lorsque nous communions, nous portons le corps du Christ, mais plus profondément, c'est lui qui nous reprend dans ses mains toutes puissantes de chirurgien. Il réalise sa promesse. Il l'a dit, c'est dans Jean 6, chapitre 6. Relisez ça aujourd'hui, chapitre 6 de Saint Jean, hein, l'Évangile, au verset 56. Jésus dit cette phrase magnifique, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » L'Eucharistie, c'est vraiment l'invention suprême du cœur du Christ, qui a mis toute sa puissance au service de son amour. Plus et mieux que tous les amoureux du monde, le Christ a voulu avoir un contact personnel, oui, personnel, direct, inouï, avec tous les membres de son Église, qui est cette épouse qu'il aime à la folie. Vous êtes peut-être surpris de pouvoir tenir dans la paume de votre main le corps de celui qui fut crucifié sur le calvaire. Alors commencez par vous étonner de la folie d'amour qu'a tenu Jésus sur sa croix. C'est Sainte Catherine de Sienne qui disait cette phrase magnifique, hein? « Ce ne sont pas les clous qui ont fixé le Christ sur la croix, c'est l'amour. » Et c'est l'amour qui le fixe au creux de notre paume, de notre main. C'est l'amour qui lui permet de s'unir avec nous, petite créature de rien du tout. Et le réalisme de la présence réelle est la suite logique du réalisme de l'incarnation il y a 2000 ans. Et de cet amour avec lequel le Christ nous a trop aimés, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Oh, le Christ de l'Eucharistie veut qu'à force de manger ce corps avec lequel il nous a sauvés et par lequel il continue à nous sauver, chacun de nous puisse redire après Paul, « Je vis en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Écoutez bien ce beau texte de Maurice Zundel et pensez à ce texte quand vous entrez dans une église ou dans la cathédrale. Maurice Zundel écrit ceci, « La cathédrale est l'écrin d'une miette de pain. » Ben oui. Y a-t-on suffisamment pensé? La cathédrale est l'écrin d'une miette de pain. Elle vit de cette miette qui est l'étoile, à laquelle sa forêt de piliers conduit. Mais réciproquement, c'est cette miette qui a suscité l'expansion de son espace, l'envol de ses voûtes et la flamme de ses vitraux. Alors comment se fait-il que le Christ peut réaliser ce contact personnel avec chacun des membres de l'Église? Parce que ressuscité d'entre les morts, il est désormais libéré des limitations de l'espace et du temps, et au lieu d'être contenu dans le monde à la façon d'un point imperceptible, il contient désormais tout l'univers. Mais oui, celui que nous recevons contient l'univers. C'est d'ailleurs ce qui lui permet d'être simultanément présent chacun des membres dont il est la tête. Rien ne lui est donc plus facile que de se servir du pain comme ça, puis du vin que nous apportons à l'autel pour se donner finalement à nous. Il ne faut pas oublier l'intervention de l'Esprit-Saint dans ce changement, hein, qui s'opère dans le pain et le vin, parce que cette transsubstantiation est un acte trinitaire. N'oublions jamais ça, c'est par la force de l'Esprit que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est dans l'Épître aux Romains, mais c'est aussi par l'Esprit, l'Esprit-Saint, que le Père sanctifie nos offrandes. Hein. C'est dans le texte de la messe, juste avant la consécration. Faites bien attention à cette prière qui précède la consécration. Hein. Et c'est aussi par l'Esprit-Saint que le Père sanctifie nos offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ. Et c'est alors par l'Esprit-Saint que le Père vient changer nos cœurs de communion. Et nous pouvons murmurer au fond de notre cœur, Esprit-Saint, oui. Esprit-Saint, prends-moi. Tel est bien le but ultime de l'Eucharistie. C'est le renouvellement profond de tout notre être par un contact vraiment vivifiant avec le corps et le sang du Christ, de celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens. Celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, la plénitude de l'Esprit-Saint. Un renouvellement qui doit être un bain de jouvence pour chacun de nous, pour toute l'Église, c'est ça la messe, hein? En nous empoignant de ses mains toutes puissantes de ressusciter, en nous communiquant son esprit, eh bien le Christ nous incorpore davantage en lui. Ah, on ne devient pas chrétien par la simple imitation d'un modèle extérieur. On devient chrétien comment? En se laissant saisir par le Christ. Et se laissant façonner par son esprit. C'est ça être chrétien. Hein? C'est pas simplement une imitation d'un modèle extérieur. Il faut se laisser saisir par le Christ et façonner par son esprit. Du même coup, mais le Christ rassemble en un seul corps les membres de son Église. Et l'Eucharistie fait l'Église. Et comme le dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, il dit bien, tous, nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. Autrement dit, dans chacune de nos Eucharisties, nous proclamons la victoire finale. Victoire finale du Christ sur toutes les forces de mort qui viennent sans cesse détruire le résultat de nos efforts. Hein? Or, pensons-y bien, hein? Par nos relations d'amitié et d'amour, hein? Notre activité d'enseignement, ou nos activités sociales, politiques, on fait tous des activités un peu politiques. Hein? Ben, nous essayons de mettre plus d'unité entre les hommes, c'est ça qu'on veut faire. On veut ne faire qu'un avec eux, finalement. Mais souvent, tous ces efforts, ça semble vain. Les malentendus s'installent, il y a des réticences de l'orgueil qui empêchent toutes sortes de réconciliations. Puis finalement, la mort sépare à jamais des êtres qui avaient si longuement entre eux des liens. Des liens qu'ils croyaient éternels, hein? Le Christ ressuscité vient sauver tout cela. Il vient constamment sauver de la destruction les efforts de l'homme. Car il est le dynamisme absolu de Dieu à l'œuvre dans le monde. Et lorsque viendra son jour, à la fin des temps, apparaîtra en pleine lumière qu'il est vraiment, pour la plus grande joie de l'homme, le Seigneur de l'univers. Et nos yeux seront sans larmes, nos voix sans cri, et nos cœurs sans péché. N'oublions jamais que la messe s'adresse au Père, Dieu notre Père. Je souhaiterais parfois que nos prêtres ne remplacent autant que possible le mot « Seigneur » par le mot « Père » ou ajoutent plus simplement « Père »,« Seigneur, Père », afin que les fidèles comprennent bien. Comme quand on dit « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi, Père, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Et c'est à ce moment-là, après le Pater, après le Notre Père, que se termine toute cette messe qui s'adressait au Père pour passer à la prière au Christ. Et ce serait le temps de changer de ton et de parler de façon plus intime. Pas de se pencher considérablement vers l'hostie, mais de la prendre dans ses mains avec amour pour qu'on la voie, nous les fidèles, pas pour nous la montrer, mais pour qu'on la voie. C'est une petite distinction. Et qu'on voit que le prêtre y croit à la présence réelle. Et qu'il dise à Jésus, « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, alors ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et là, laissant l'hostie, en la redéposant sur la patène, qu'il nous regarde et qu'il relève les bras et qu'il dise que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et on continue, agneau de Dieu, en s'adressant à Jésus qui est sur l'autel, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Et le prêtre ajouterait, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, voilà, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements, qui sont des conseils d'amour, et que jamais je ne sois séparé de toi. Ma messe serait beaucoup plus riche. » On a mille fois raison d'insister sur la volonté du Christ de se donner à nous en nourriture. Et s'il se rend présent sous les apparences du pain et du vin, c'est afin que nous le recevions. Et l'on peut déplorer qu'au siècle dernier, les chrétiens passaient de longues heures devant le tabernacle de leurs églises, sans oser s'approcher chaque jour de la Sainte Table, comme l'on disait alors. Mais aujourd'hui, on s'approche parfois sans trop y penser. Et l'adoration du Très-Saint-Sacrement, exposé ou non, simplement le Saint-Sacrement dans le tabernacle, eh bien ça reste un excellent moyen, moi je crois, de nous préparer à ces rencontres merveilleuses que le Seigneur nous propose d'avoir avec lui en nous évitant à la messe, qui est un festin des noces de l'agneau. Beaucoup de chrétiens sont en train d'ailleurs de redécouvrir la valeur puis la fécondité des longs moments passés devant le Très Saint-Sacrement dans le silence. Ces chrétiens-là sont heureux de faire cette démarche à la suite de tous ceux qui l'ont fait avant eux. Il leur suffit de penser aux veillées nocturnes de qui, je vous en ai parlé le 1er décembre, du frère Charles de Foucault, à Nazareth ou à Béniabès dans le désert. C'est Charles de Foucault qui disait devant ses sacrements en pleine nuit. Et nous, on peut faire ça si on se réveille la nuit. On peut se retourner peut-être vers l'église, si on en connaît la direction, ou le Saint-Sacrement, ou simplement dans son cœur on y pense, et on peut prier comme lui. Un ami m'a remis d'ailleurs des prières qu'il récite après la communion. « Ton mon doux Jésus, quel immense bonheur tu me fais en venant habiter mon pauvre cœur de pécheur. Ô mon Jésus, prends-y toute la place. Purifie-le, purifie mes pensées, mes désirs et toute ma vie. Sois en tout temps mon modèle. Nourris-moi de ton amour infini, de ta grande miséricorde et de ton humilité sans borne. Donne-moi un peu de tes perfections pour que je puisse t'aimer et faire davantage ta sainte volonté. Sois ma lumière et mon courage dans les tentations et dans les moments noirceurs de ma vie. Ô doux Jésus, j'implore ton pardon pour toutes mes fautes passées, présentes et futures. Fais-moi connaître le chemin que tu veux que je suive et donne-moi le courage, la générosité, la persévérance pour y marcher selon ton bon désir. Ô doux Jésus, je m'offre à toi. Je veux me mettre entièrement à ton service afin de pouvoir t'aimer parfaitement. Je t'en prie, fais de moi un chrétien docile, plein d'amour et reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Charles de Foucault lui disait, « Mon Dieu, qu'il est doux de veiller à vos pieds. Merci de m'avoir éveillé. Merci de m'avoir fait lever. Merci de m'avoir autorisé et invité à me tenir à vos pieds, en tête à tête avec vous pendant ce calme et dans les ombres de la nuit, et me choisir, moi, si indigne, pour vous tenir compagnie, pour vous adorer, pour vous parler durant ces heures où tant d'âmes sommeillent. » On sait la place centrale que tenait la présence du Seigneur au tabernacle, dans la piété puis la pastorale du fameux curé d'Ars. Je vous ai fait une belle émission aussi sur le curé d'Ars. C'est toujours disponible, ça, chez Marc-Alexandre. Le curé d'Ars disait, « Il est là, il vous attend. » Si nous avions eu une grâce à demander à notre Seigneur, nous n'aurions jamais pensé à lui demander celle-là. S'il avait eu quelque chose, écoutez bien, ça c'est formidable, ce petit prêtre de rien du tout, le curé d'Ars, hein, pas brillant, hein, mais seulement merveilleux. Il disait, s'il avait eu quelque chose de plus précieux à nous donner, il nous l'aurait donné. Il était Dieu. Quand, il ajoute, quand vous vous éveillez la nuit, transportez-vous vite en esprit devant le tabernacle, et si vous passez devant une église, entrez pour le saluer. Peut-on passer à la porte d'un tel ami sans lui dire bonjour, disait le curé d'Ars. Ah, les saints d'aujourd'hui ne raisonnent pas autrement. Hein? C'est Mère Teresa qui disait, nuit et jour, il est là. Si vous voulez réellement grandir dans l'amour, revenez à l'Eucharistie, revenez à cette adoration. Dans notre congrégation, nous avions l'habitude d'avoir l'adoration une fois par semaine pendant une heure. Puis, en 1973, nous avons décidé d'avoir l'adoration chaque jour pendant une heure. À partir de ce moment, écoutez bien ça, c'est Mère Teresa qui parle, à partir de ce moment, notre amour pour Jésus est devenu plus intime, notre amour pour chacun plus compréhensif, notre amour pour les pauvres plus compatissant, et nous avons doublé le nombre de nos vocations. Dieu nous a bénis avec de nombreuses et magnifiques vocations. Vous pouvez trouver le texte dans « Jésus, celui qu'on invoque » de Mère Teresa, publié chez Nouvelle Cité en 1988. Hein? Oui, pensez-y bien, le Seigneur rend toujours au centuple le temps qu'on lui consacre. C'est une vérité d'expérience. Hein? Et que dire de la transformation que produit dans les cœurs la contemplation de son corps? Hein? Tu sais, confiait récemment un jeune, maintenant j'ai compris, en regardant le corps de Jésus dans mes mains, que je ne pourrai plus jamais jouer avec mon corps, il m'a guéri de mon péché. Quand vous recevez Jésus, vous recevez Dieu. Dieu lui-même, vivant. Et si vous avez besoin de livres pour réfléchir, un des plus beaux, c'est « L'agneau de la Pâque éternelle » de Germain Leblond, chez Desclés. C'est un livre de théologie. Mais il y a aussi aux éditions Pauline, prier devant le Saint-Sacrement, 12 célébrations qui sont très belles, et aussi prier ensemble encore aux éditions Pauline.